Vous écoutez RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'info et à la une, Bure, l'anti-Notre-Dame-des-Landes. Après l'évacuation de ce matin, il n'y a plus d'opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Dans le bois Le Juc, près de Bure, 500 gendarmes avaient débarqué à l'aube pour évacuer cette zone occupée par une quinzaine de militants. L'État a donc choisi la manière forte pour empêcher la création d'une nouvelle ZAD dans la Meuse. Alors dans RTL Soir, nous serons sur place à Bure au moment où s'organisent des rassemblements devant les préfectures de France. Nous vous expliquerons pourquoi cette évacuation est très symbolique après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et puis on en débattra dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres.
1 millier de jeunes agriculteurs à l'Élysée. Emmanuel Macron veut rassurer les exploitants à l'avant-veille du salon de l'agriculture. Y a-t-il eu surfacturation chez les insoumis? Jean-Luc Mélenchon s'en défend, mais plusieurs médias s'interrogent sur les comptes de campagne du candidat et pointent des factures aux montants étonnants. Il faudra peut-être bientôt attendre 21 ans pour pouvoir acheter un fusil d'assaut aux États-Unis. En pleine polémique, Donald Trump envisage de durcir la règle sur les armes. Jean Reno prend la défense de Laetitia. Ce soir, ce très proche de Johnny Hallyday demande à ce que les dernières volontés du rocker soient respectées dans un communiqué qu'RTL vous révèle. Et puis la France qui égale le record de Sochi aux Jeux Olympiques avec désormais 15 médailles au compteur. La Bourse de Paris termine en légère hausse. Ce soir, plus 0,13% à 5309 points. Et puis les courses à Vincennes, il fallait jouer le 10, le 7, le 8, le 2 et le 3.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre de l'actualité, le gouvernement en mode TGV sur la réforme de la SNCF, il pourrait légiférer par ordonnance, mais combien de fois ont-elles été utilisées dans le passé ces ordonnances? Qui y a eu le plus recours? 18h30 d'ailleurs, Alain Duhamel y reviendra lui aussi. 18h20, document RTL. Hier, Théo était dans le bureau du juge face au policier qui l'accuse de l'avoir frappé et violé. Alors comment s'est passée cette confrontation? Confirme-t-il sa version des faits? Comment va-t-il? Théo et son avocat Maître V, tout à l'heure, donc à 18h20 sur RTL. Puis direction les coulisses de l'actualité, chaussez vos bottes, on vous amène en coulisses avant l'ouverture samedi donc de la plus grande ferme de France, le Salon de l'Agriculture. 18h35, il vient en aide à ceux qui galèrent. Thierry Marx, à qui plus jeune on disait « c'est pas pour toi », lance une nouvelle école de cuisine à Dijon. Rencontre avec un grand chef étoilé et engagé tout à l'heure sur RTL. À la une de l'actualité également, la météo, il fait très froid, Louis Baudin, bonsoir.
Oui, bonsoir Marc-Olivier, effectivement il fait très froid, il fera encore un peu plus froid demain matin puisqu'on sera entre moins 5 et moins 3 degrés quasiment partout, y compris en bord de mer, il n'y a que sur les bords de la Méditerranée où on aura quelques valeurs positives et en cours d'après-midi, pour continuer avec ces températures, elles baisseront encore un peu, 1 à 3 degrés seulement demain après-midi en Lorraine, Alsace ou encore Franche-Comté, 3 à 4 degrés dans les autres régions de la moitié nord, on ira un petit peu plus haut en Bretagne, puis dans le sud on sera entre 4 et 7 degrés en règle générale, 10 à 13 degrés près de la Méditerranée. Tout ça avec beaucoup de soleil dans la moitié nord, dans l'ouest, quelques nuages le matin des Pyrénées à la région Rhône-Alpes, mais là aussi c'est soleil qui s'imposera l'après-midi. Non, il restera quelques nuages, un peu comme aujourd'hui, entre les Alpes et la Corse, avec même quelques flocons en montagne.
Carrément, une vague de froid, Louis, qui va donc s'abattre sur la France, hein, on l'a bien compris.
Avec jusqu'à moins 10 en pleine la semaine prochaine dans le nord-est, en début de semaine, le plan grand froid a été activé dans 29 départements pour l'hébergement des sans-abri. La chute des températures sera en effet accompagnée de vents de nord-est qui renforceront encore la sensation de froid, une sensation déjà bien présente, pas évident pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Vincent Serrano, vous l'avez vérifié dans les rues de Paris avec des ouvriers du bâtiment qui bravent le froid tant bien que mal.
Et la température ce matin, l'ouverture du chantier, moins 5 degrés, seule solution pour Teddy, se couvrir.
C'est ma femme qui m'a remis un petit blouson dans mon sac à dos avec ma gamelle, comme un bébé. Si on se couvre bien et qu'on bouge, ça passe.
Mais le bonnet sous le casque, les gants, les efforts n'y changent rien, impossible de se réchauffer aujourd'hui.
On essaie de trouver des travaux à l'intérieur. Mais c'est le ressenti, je pense qu'il doit faire 0 ou moins 1, mais c'est le ressenti, c'est le vent, comme c'est un grand boulevard, c'est le vent qui tue. Ça pénètre tous les habits partout, c'est fini après.
La machine à café branchée sur l'une des seules prises du chantier marche à plein tube et régulièrement, Victor, le responsable du chantier, demande à ses équipes de lever le pied.
On travaille dans le froid, c'est déjà une habitude. Dès qu'on est habitué, on ne sent même pas le froid. Mais moi, je suis très cool avec eux. C'est vrai que cette année, il fait un peu plus froid que d'habitude. L'année dernière, on ne l'a pas trop senti. En fait, on préfère le froid que la pluie. C'est pas pour ça qu'on va s'arrêter.
À l'arrière d'un camion, des chauffages d'appoint sont prêts à être déballés, installés sous les échafaudages. De quoi les aider un peu à surmonter les moins 15 degrés attendus pour la semaine prochaine.
Allez, courage à toutes et à tous. Reportage RTL signé Vincent Serrano.
RTL Soir.
D'abord, la colère de Jean Reno, en plein feuilleton donc sur l'héritage de son ami, son frère, dit-il, Johnny Hallyday.
Une amitié affichée le jour de la cérémonie en hommage au chanteur dans l'église de la Madeleine. Jean Reno, au bord des larmes, avait lu un poème de Jacques Prévert, chanson des escargots qui vont à l'enterrement. Ce soir, le ton de l'acteur est tout autre. Dans un communiqué que RTL a pu se procurer en avant-première, il prend la défense du rocker et de son épouse Laetitia. Et les mots sont très forts, Stéphane Boutsock.
Oui, d'emblée, l'acteur se dit en colère face au déferlement de mensonges venu piétiner l'honneur de celui qu'il a tant aimé, mais aussi, ajoute-t-il, celui de son épouse Laetitia et de ses filles Jade et Joy. Jean Reno rappelle ensuite que seuls comptent les derniers souhaits de Johnny et il explique plus loin que le chanteur a dicté ses dernières volontés en pleine conscience et en pleine possession de ses moyens. Quant à la polémique sur le fait que l'idole disparue a déshérité Laura et David, Jean Reno affirme lui aussi que son ami les a avaient mis en sécurité avant d'ajouter « Aujourd'hui, leurs vies sont bien engagées ». Alors on le disait, ce communiqué est surtout un véritable plaidoyer en faveur de Laetitia Hallyday, le comédien salue celle qui a vécu aux côtés de Johnny pendant 23 ans, dit-il, œuvré pour qu'il remonte au sommet, panser ses blessures, apaiser son âme et l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Enfin, Jean Reno appelle à faire preuve d'apaisement en mémoire de Johnny, qu'il repose en paix et que l'on respecte ses dernières volontés, conclut-il.
Stéphane Boutsock du Service Culture de RTL. Merci Stéphane. Il n'y a plus d'occupants à Bure. Les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires ont été évacués.
Délogés par surprise dès l'aube ce matin par 500 gendarmes. Délogés du bois dans lequel ils s'étaient installés. Les opérations ont été émaillées par quelques heures dans la Meuse. Ce soir, le calme est revenu. Samuel Goldschmidt, mais les opposants semblent bien décidés à poursuivre le combat.
Oui, ils se sont exprimés une fois que la situation s'est stabilisée autour de leur maison de la résistance dans le village de Bure. Une trentaine d'opposants s'y étaient réfugiés après l'évacuation du bois le matin et les gendarmes mobiles sont entrés en force pour perquisitionner les lieux. Les opposants ont connu un sévère revers aujourd'hui, mais ils se positionnent pour la suite.
C'est vraiment une répression juste dégueulasse et incroyable. Autant de gendarmes mobilisés. Nous, en fait, ce qu'on voudrait juste dire, c'est que vraiment, il faut se mobiliser, en fait. Il est temps de se bouger contre ce projet de poubelle nucléaire. Il ne faut pas se laisser abattre par la répression. Et ce n'est pas les gendarmes qui tournent autour, ce n'est pas la répression, ce n'est pas les arrestations qui vont faire qu'on va abandonner. Et ce bois, en fait, il sera repris. Et la lutte, elle continuera.
Mais là-dessus, le secrétaire d'État à la transition énergétique, Sébastien Lecornu, prévient ça n'est pas tout à fait le programme du gouvernement.
Le message le plus clair, c'est qu'on ne veut pas de ZAD. Et on reviendra autant de fois qu'il faut revenir. Parce qu'une fois de plus, dans notre pays, on a le droit d'exprimer des craintes, des doutes, on a même le droit de combattre un projet. Ça doit être fait de manière légale et pas de manière illégale. Voilà, cette distinction-là, je pense que tous nos concitoyens la comprennent.
Les opposants appelaient dès ce soir à un rassemblement, notamment ici, devant la préfecture de Bar-le-Duc. Et pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup plus de CRS que de manifestants.
Samuel Goldschmidt pour RTL.
À Bure, donc, où le sujet s'est invité à l'Assemblée nationale cet après-midi, certains députés d'opposition ont en effet pris à partie Nicolas Hulot, exhibant d'anciennes photos du ministre de la Transition écologique, opposant d'alors au site d'enfouissement de déchets nucléaires. Un ministre pas vraiment à l'aise au moment de répondre.
Je considère effectivement que nous sommes maintenant à l'heure de vérité sur la filière du nucléaire. On a ces déchets. On aurait dû s'en préoccuper plus tôt parce qu'on savait effectivement que ça posait un problème philosophique qui est considérable et qui dépasse largement nos petites préoccupations aux uns aux autres. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les enfouit de manière irréversible pour des centaines de milliers d'années? C'est pas la conception que je me fais d'une civilisation, mais je ne peux pas, encore une fois, faire disparaître par enchantement. Donc on va regarder là aussi la moins mauvaise solution. Aucune solution n'a été actée jusqu'à présent.
Nicolas Hulot, donc le ministre de la Transition écologique à l'Assemblée nationale. Les jeunes agriculteurs à l'Élysée, ils étaient près d'un millier ce midi face à Emmanuel Macron.
Opération déminage pour le chef de l'État à deux jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture où il est attendu samedi. Et alors que les exploitants manifestent depuis plusieurs jours, les dossiers sensibles ne manquent pas. Les accords de libre-échange avec le Mercosur, encore le redécoupage des zones défavorisées. Jacques Serret, pendant près d'une heure ce midi, Emmanuel Macron s'est donc employé pour tenter de rassurer la nouvelle génération d'agriculteurs français.
Oui, et cela dans un discours pour le moins offensif. D'entrée, le chef de l'État a voulu répondre à ceux qui voyaient dans cette réception un coup de communication.
Je ne construis pas l'ambiance de samedi prochain. Je m'en moque totalement. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années.
Sous les lustres de cristal de la salle des fêtes, Emmanuel Macron s'adresse à la nouvelle génération. 40% des agriculteurs aujourd'hui en activité seront partis à la retraite d'ici deux ans, explique-t-il. Alors il donne des garanties, notamment sur le dossier très sensible des négociations de libre-échange avec le Mercosur qui menacerait la filière bovine.
Il n'y aura aucune réduction de nos standards sociaux, environnementaux ou sanitaires à travers cette négociation. Et pour être très explicite, Il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France. Il n'y en aura jamais.
Le président annonce la mise en place de verrous pour réglementer les achats de terres agricoles par des étrangers. Après ces déclarations, avis mitigé chez les exploitants. Jérémy Deserle, le président des jeunes agriculteurs.
On a besoin aussi de certitudes sur les moyens qui vont être mis en œuvre. Pour l'instant, on est encore dans le doute. Il y a peut-être encore un peu de temps, mais sauf que, au fur et à mesure, il y a quand même des paysans qui sont en train de mettre la clé sous la porte et on a besoin de certitudes et de choses encore plus précises.
Le chef de l'État devrait continuer de préciser son projet pour l'agriculture lors de sa venue sur le salon. Le dialogue semble en tout cas apaisé.
Jacques Serret pour RTL. Ne pas enfermer les jeunes trop tôt dans une filière professionnelle, c'est l'une des propositions pour redorer le blason des bacs pro.
Un rapport a été remis aujourd'hui au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Le gouvernement veut valoriser davantage la voie professionnelle et parmi les pistes évoquées pour y arriver, Marie Guerrier, la nécessité de laisser plus de temps aux jeunes pour choisir leur futur métier.
Oui, la classe de seconde en lycée professionnel devrait permettre de découvrir une famille de métiers autour de plusieurs filières. Et c'est en première seulement que l'élève aurait à choisir sa voie, sa filière. Céline Calvez, députée et co-auteur du rapport, appelle ça la spécialisation progressive.
Contrairement à ce qui se faisait aujourd'hui, où vous demandiez à un jeune de 3e de choisir parmi une des 98 spécialités de bac pro, c'est lui donner l'occasion pendant l'année de seconde de pouvoir goûter. C'est le stage, c'est la rencontre de professionnels, c'est la participation des forums de métiers, ce sont les visites d'entreprise.
Pour que ça marche, le cuisinier Régis Marcon, chef étoilé et co-rapporteur, milite pour une plus grande collaboration entre enseignants et professionnels.
Franchement, il y en a marre quand on voit tous ces jeunes qui sont au chômage. Tous les professionnels demandent des collaborateurs formés. On se dit, mais il faut se bouger quand même. Je suis pour le rapprochement école-entreprise. C'est essentiel dans cette réforme. Mais faut-il que chacun se l'accapare ? C'est pas que les professionnels, c'est pas que les enseignants, c'est tout cet ensemble.
Le ministre de l'Éducation nationale veut, lui, que la formation professionnelle donne envie. Jean-Michel Blanquer va travailler avec les régions sur des projets de campus pro.
Je parle parfois de Harvard du professionnel, parce que c'est des lieux où vous aurez des internats, des équipements sportifs, des centres d'apprentissage, des lycées professionnels, des incubateurs d'entreprise. Autant de choses qui font envie, un avenir très prestigieux pour les élèves qui s'y engageront.
Le ministre va maintenant consulter sur la base de ce rapport et il présentera sa réforme du bac pro fin mars.
Merci beaucoup Marie Guerrier.
RTL Soir, il est 18h12.
Et dans un instant, des factures étonnantes dans les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon.
18h13, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal de Céline Landreau.
Et Jean-Luc Mélenchon réplique et dénonce une atteinte à l'honneur après les révélations sur ses comptes de campagne.
Oui, une réponse après une série d'articles de presse parus ces jours-ci qui évoquent certaines factures au montant détonnant. Marie-Bénédicte Heller, il y a une question, y a-t-il eu des surfacturations dans les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon ?
D'abord, il faut rappeler que la Commission nationale des comptes de campagne a validé ceux de Jean-Luc Mélenchon. Cela dit, elle a considéré effectivement que 400 000 euros devaient être déduits des dépenses déclarées pour remboursement. Voici comment le chef de file de la France Insoumise s'en expliquait la semaine dernière sur son blog.
On nous a demandé de déclarer toutes les dépenses. Et c'est normal, parce que la commission doit pouvoir vérifier qu'on ne dépasse pas le plafond de dépenses, qu'on n'a pas dépensé plus que ce qui est permis. Donc nous avons tout déclaré. Et après, c'est eux qui décident ce qu'ils remboursent ou pas.
Alors parmi les dépenses pointées comme trop élevées, les salaires facturés par l'association qui fournissait des prestations aux candidats. Quant aux sommes versées à la société de sa chargée de communication, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il a eu raison au vu des résultats de sa campagne. Tout a été facturé au prix du marché, affirme Manuel Bompard, son ancien directeur de campagne. Alors nous avons consulté un spécialiste du financement des partis politiques qui nous explique qu'il n'y a, semble-t-il, pas de procédé illégal, tout au plus peut-être un manque de rigueur. Dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on souligne que rien n'a été transmis à la justice, ce qui veut donc dire, dit-on, qu'il n'y a aucune irrégularité.
Merci Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Marion Maréchal-Le Pen, elle reprend la parole depuis les États-Unis.
La nièce de Marine Le Pen, 28 ans, est officiellement retirée de la vie politique, s'exprime actuellement devant le gratin conservateur américain au premier jour de la Conservative Political Action Conference.
Les États-Unis, où la NRA, le lobby des armes, dénonce la politisation honteuse de la tuerie en Floride.
La semaine dernière, cette fusillade faisait 17 morts dans un lycée de Parkland. Dans la foulée, de jeunes rescapés ont interpellé le président américain sur la réglementation des armes à feu. Donald Trump a proposé d'armer certains enseignants, mais il fait aussi un petit geste en direction de ceux qui réclament plus de contrôle. Il envisage, Philippe Corbet, d'interdire la vente d'armes aux moins de 21 ans.
Oui, il est réfléchi en tout cas, ça n'est pas tranché. Aujourd'hui, il est déjà interdit d'acheter un pistolet avant 21 ans, mais c'est légal pour les fusils d'assaut semi-automatiques comme ceux des tueries du lycée de Floride, de l'église du Texas, du concert de Las Vegas, de la boîte de nuit d'Orlando et d'autres. On estime qu'il y en a 15 millions en circulation, alors que dans beaucoup d'États, il est interdit de boire avant 21 ans, c'est-à-dire que pour une bière, vous risquez 60 jours de prison, un an en cas de récidive, mais vous pouvez acheter tout à fait légalement une arme de guerre. Ça semble être du bon sens. Et pourtant, cette réflexion du président passe mal auprès de conservateurs comme Sarah.
Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses et certainement pas sur ça. Il veut donner l'illusion qu'il fait quelque chose, mais il jette juste des idées en l'air. J'ai acheté ma première arme quand j'avais 18 ans. Je ne l'ai jamais utilisée que pour tirer sur des cibles. Donc je ne crois pas que ce soit l'âge de la personne qui soit le facteur déterminant. C'est leur stabilité mentale.
C'est pour ça que le président dit seulement qu'il y réfléchit, car il n'a probablement pas de majorité dans son camp pour repousser ainsi l'âge d'achat des fusils d'assaut.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. À tout à l'heure, Céline, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
On parlera sport, notamment dans le rappel des titres. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Une réforme à grande vitesse pour la SNCF. Le gouvernement, vous le savez, ne s'interdit pas de légiférer pour la seconde fois par ordonnance pour éviter une grande grève. Mais combien de fois ont-elles été utilisées dans le passé, ces ordonnances ? Qui y a eu le plus recours, Dominique Tenza ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une pratique exceptionnelle. Loin de là, même à gauche comme à droite, nos dirigeants en ont largement usé, voire même abusé au fil de leur mandat, comme le révélait un rapport du Sénat. Entre 1984 et 2013, plus de 400 ordonnances ont été ratifiées. Un usage courant, donc, sous son seul quinquennat, Nicolas Sarkozy y a par exemple eu recours plus de 136 fois dans des domaines aussi variés que les impôts, l'enseignement, l'environnement, l'immigration, le droit du travail, bref, la Constitution et son article 38 permettent quasiment de tout réformer par ordonnance.
Alors ça veut dire, Dominique, que dans le passé, de grandes réformes ont été prises par ordonnance ?
Absolument, et vous seriez surpris tellement la liste est longue. Janvier 82, Mitterrand instaure la cinquième semaine de congés payés par ordonnance. Idem pour le passage de 40 à 39 heures. En 1993, Édouard Balladur profite du mois d'août, les Français sont en vacances, pour faire passer sa réforme des retraites par ordonnance, là aussi. Et puis si l'on remonte encore plus loin, juillet 1967, on se rend compte que le général de Gaulle, lui aussi, a profité de ce dispositif pour créer à l'époque l'ANPE. C'était il y a 50 ans, avec déjà comme raison invoquée la nécessité d'agir dans l'urgence.
Dominique Tenza.
RTL Soir, il est 18h18.
Allez, à suivre document RTL. Donc Théo, face au policier qui l'avait arrêté, le coup de matraque a-t-il été porté intentionnellement ou pas ? Les deux camps se sont affrontés hier lors d'une confrontation chez le juge. Le jeune homme et son avocat prennent la parole dans un instant sur RTL.